The sound of your city. CIUT 89.5, Toronto. Listen to us on the go with TuneIn Radio's free app. Or go to the live stream at www.ciut.fm. Right here, right now, every day. CIUT 89.5 FM.
Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.fm or live from our studio. Potpourri Show targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands. And features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target. Potpourri Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. In partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.purri@simpatico.ca.
Êtes-vous un fournisseur de services? Faites-vous partie de la communauté francophone? Connaissez-vous vos droits pour recevoir des soins de santé en français? Qu'est-ce que l'offre active en santé? Alors, Reflet Salvéo, l'organisme à but non lucratif, est là pour vous accompagner dans votre démarche pour trouver des soins, des bons services en santé. Reflet Salvéo est chargé d'engager la communauté francophone dans son système de santé, mais également de conseiller les réseaux locaux d'intégration des services de santé sur leur politique de service. Connaissez-vous les slogans de Reflet Salvéo? Compétence, écoute, engagement, solidarité. Reflet Salvéo, le reflet des besoins en santé pour les francophones de la région. Que vous soyez immigrant, femme, jeune, personnes âgées ou personnes ayant un handicap, ou vivant avec le VIH, Reflet Salvéo prend en compte vos besoins dans son plan d'action. Découvrez toutes les thématiques, les projets et les offres d'emploi disponibles en ce moment chez Reflet Salvéo en visitant le site web www.refletsalvéo.ca. Faites comme Christopher, devenez membre et prenez votre santé en main. Communauté informée, communauté en santé, ça commence chez Reflet Salvéo.
C'est un événement, c'est presque un moment historique.
Et oui, Jean-Michel Jarre, la légende de la musique électronique française, donnera enfin son premier concert au Canada. Participez à nos jeux concours et courez la chance de gagner des billets pour ce grand concert le 9 mai prochain au Sony Center for the Performing Arts à Toronto. Tournée mondiale de Jean-Michel Jarre, Electronica. Et oui, notre partenaire du journal Express de Toronto l'a rencontré avant sa venue, qui s'annonce comme un des rares moments culturels de l'année. Jean-Michel Jarre, la légende de la musique électronique française, donnera son premier concert au Canada. Ne ratez pas cette occasion historique et soyez parmi nos invités. Jean-Michel Jarre à Toronto pour la première fois. Suivez-nous sur facebook.com/potpourrishow ou sur Twitter, #potpourrishow et bonne chance.
Merci, la parole est à monsieur Dominique Dorde.
Vous aviez promis la croissance, elle est à zéro. Mais c'est pas de votre faute. Mais c'est pas de votre faute. Mais c'est pas de votre faute, vous aviez promis de l'emploi et le chômage va battre son record historique. Mais c'est pas de votre faute, mais c'est pas de votre faute.
Et oui, mesdames, messieurs, et aujourd'hui nous allons faire chanter tous nos politiciens peut-être à nos invités. Aujourd'hui à l'émission dès midi sur CUT 89,5 FM, la présidentielle française vue par des Torontois, des francophones à l'étranger. Une émission réalisée en partenariat avec les Enfants Terribles, nouveau groupe d'un journal francophone sur le campus de l'Université de Toronto et Radio France Internationale.
Mais c'est pas de votre faute. Mais c'est pas de votre faute.
Vous et pour tenir notre promesse en tant que radio citoyenne et très très démocratique, CUTFM donne la parole au vrai peuple. Comme dirait l'autre, des professeurs, partenaires de notre émission seront à l'antenne dès midi, aujourd'hui à ne pas rater. La présidentielle française vue par des Torontois et des francophones du monde.
Ministre du budget.
Monsieur le député, vous avez raison, ce n'est pas de notre faute, c'est de la vôtre.
La fièvre électorale monte en France. À quoi ressemblerait la France des 11 candidats à l'élection présidentielle? Sortie de l'Union européenne, revenu universel, passage à une vie 6e République. Les 11 candidats à l'élection présidentielle française ont chacun leur modèle de société à proposer aux Français et aux Françaises. Et vous, qu'en pensez-vous? Nous attendons vos commentaires au 86 946 7000 ou par courriel tout au long de l'émission tot.pourri@simpatico.ca. Participez et courez la chance de gagner un tout nouveau t-shirt de CIUT-FM. La présidentielle française vue par des Torontois et des francophones à l'étranger. Une émission réalisée en partenariat avec les Enfants Terribles de l'Université de Toronto.
J'ai des amis au Sénégal.
Du côté de l'Oumoué.
J'ai des amis dans les villes.
Allez les gars, à votre.
J'ai des amis dans les îles.
Anti-goût de miel, anti-goût de fiel.
J'ai des amis proches ou lointains. J'ai des amis dans tous les coins.
Hello.
Bonjour.
Tant que la terre sera ronde, j'irai où?
Ici.
Tour du monde.
Là-bas.
Vois d'autres êtres humains
ailleurs,
ni plus ni moins.
RFI.
RFI.
On en fait tout un monde.
Vous écoutez Popourri Show sur CUT 89,5 FM. Une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Popourri Show, 30 ans déjà. Toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm ou www.popourrishow.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM. D'histoire, un jour à la fois, soyez au courant des expériences formidables qui se déroulent au Canada. Apprenez-en davantage sur les occasions de financement et de partenariat avec notre émission. La journée du cinéma canadien, 150 ans, plein feu sur le cinéma francophone avec Ciné Franco. Rendez-vous le 16 avril prochain. mesdames, messieurs, bienvenue dans Potpourri Show sur CUT 89,5 FM, une émission réalisée aujourd'hui en exclusivité et en partenariat avec les Enfants Terribles de l'Université de Toronto. L'ingénieur du son aujourd'hui, DJ Devera, qui nous disons bien le bonjour, assisté aujourd'hui de Sloan Ballant, un revenant. Merci d'être là. Au microphone, Eric Adair avec vous jusqu'à 13h sur www.cut.fm. Et au menu aujourd'hui, en ce dimanche 9 avril, où que vous soyez à travers la planète, on vous salue bien en direct de l'Université de Toronto. Du 10 au 13 avril prochain, Haïti sera à l'honneur au lycée français de Toronto avec la Semaine internationale d'Haïti. Et cette activité permettra notamment aux élèves à découvrir la culture haïtienne dans toute sa splendeur, nous dit-on, une déferlante de saveurs, de couleurs et de musique et d'apprévoir. Notre invité aujourd'hui, pour la première fois d'ailleurs, monsieur Boulalem Maizia, il est le proviseur du lycée français de Toronto. La présidentielle française vue de Toronto et à l'étranger, surpris, amusé ou inquiet, quel regard les observateurs d'ici et à l'étranger portent-ils sur l'élection, je dis bien, présidentielle française de 2017. Et en dernière heure, les écarts se resserrent à l'approche du premier tour. Et qui sont ces étrangers en France qui se passionnent pour la présidentielle? Et pour cette première émission, Potpourri Show donne la parole aux partenaires et étudiants de l'Université de Toronto, les correspondants de RFI à Paris et les étudiants de l'Université McGill à Montréal. L'Université McGill, bien sûr. Parmi nos invités aujourd'hui, professeur Pascal Michelucci, directeur du département de français Campus Saint-Georges, Université de Toronto. Professeur Caroline Lebrec, à qui nous disons bien le bonjour, elle est agente de liaison au département d'études langagières Campus de Mississauga, à l'Université de Toronto. Koya Kouz, co-président, rédacteur en chef des Enfants Terribles à l'Université de Toronto, qui maintenant collabore régulièrement à notre émission. Merci d'être là. Et Toby Riddlewitz, designer du site des Enfants Terribles à l'Université de Toronto, qui est déjà avec nous en studio. Samuel Ferrer, étudiant en Sciences Po à l'Université McGill à Montréal. Chloé Sonia, coprésidente des Enfants Terribles à l'Université de Toronto, qui je pense est avec nous. Charlène Anania, elle est rédactrice au journal Varsity et le journal Strand, Université de Toronto Victoria College. Bonjour, merci d'être là. Élie Lafont, qui sera en direct de Pékin, si je ne m'abuse. Et si vous souhaitez y participer, donnez votre grain de sel à cette émission d'aujourd'hui. Veuillez transmettre vos coordonnées à Sloan au 86 946 7000 ou à pot.pourri@simpatico.ca. Vous pouvez aussi aller sur notre site web www.popourishow.com ou encore www.enfantterrible.co pour tout savoir sur ce nouveau groupe à Toronto. Du Journal Express de Toronto, notre média partenaire, et oui, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, notre partenaire à l'Université de Toronto, a animé une conférence le 28 mars dernier pour présenter une vaste étude des migrations au Canada pour tenter de distinguer la mobilité actuelle des francophones de celle du passé. Comment les franco-mobiles, c'est comme ça qu'on les appelle, vivent et racontent leur mobilité et comment cette mobilité peut renforcer ou remettre en question nos idées sur la francophonie canadienne. Intitulé « Un Canadien errant, ancrage, mobilité et restructuration transformatrice de l'identité nationale », une étude qui implique une dizaine de chercheurs et de doctorants à travers le Canada, qui regroupe aussi des spécialistes en anthropologie, en histoire, en sciences politiques et en sociolinguistique. Et nous avons eu le bonheur justement d'accueillir professeur Monica Heller à nos micros récemment, justement pour nous présenter cette étude sur les migrations au sein du Canada et au-delà de nos frontières. Toujours dans le journal Express de Toronto, un fait assez amusant. La commission des transports de Toronto grogne après la diffusion d'une vidéo, tenez-vous bien, montrant qu'il suffit de balancer son parapluie près des nouvelles portes presto pour les faire ouvrir. Eh oui, donc c'est le transport en commun gratuit, j'imagine. À qui la faute? Qui doit-on blâmer? À lire dans l'Express. L'Express de Toronto toujours s'intéresse aux élections présidentielles françaises avec pour titre « Les petits candidats font entendre leur voix au débat à 11 ». Le grand débat qui a eu lieu mardi soir dernier à la télévision, à lire. Absolument. Dossier francophonie, pour en finir avec l'insécurité linguistique, une analyse sur de bons et de mauvais accents en français et le parler courant des franco-ontariens. Voilà un article qui peut susciter débat sur la qualité du français et de ses accents dans tous ces états, en Ontario ou même au Canada. Voilà une bonne question pour le proviseur du lycée français de Toronto, si vous êtes à l'écoute. Et prévision, merci à Ciné Franco, la journée du cinéma canadien, 150 ans, plein feu sur le cinéma francophone. Prévu à partir du 19 avril prochain, Ciné Franco et Québec Cinéma s'unissent pour célébrer notre cinéma aux quatre coins du pays. Découvrez les rendez-vous de Ciné Franco à l'antenne dès dimanche prochain. Et oui, voilà. Bonjour Sloane, ça va? Oui, je vois qu'il est très occupé. Il est en train de converser avec les gens. Alors, si la ligne est occupée, vous ne pourrez pas appeler pour gagner votre T-shirt. Mais prenez votre mal en patience. Voilà une autre expression très française, très francophone. J'espère que tout va bien chez vous. Oui, c'est pas la fin du monde. Hein. Oui, je sais que nous avons vécu des moments assez pénibles cette semaine. Mais les étudiants qui sont avec nous vont sans dire, sans doute nous parler des défis qu'ils doivent relever pour leurs examens de trimestre. Ça va, vous, les jeunes? Vous avez bien travaillé? Pas trop fatigué? Alors, ils sont là depuis 10h, je pense, hein, 10h30. Merci d'être là. Pas de panique. Le monde a peur du nouvel ordre mondial de Trump. Nous avons reçu plusieurs messages de Montréal, d'Ottawa, de l'étranger, qui veulent participer à ce qui se passe en ce moment en Syrie, mais aussi peut-être la Corée du Nord. Certains parlent même du début de la Troisième Guerre mondiale. Je ne sais pas s'il faut avoir peur. Tout ça pour vous dire que nous sommes des citoyens, citoyennes conscients, et il est important de suivre l'actualité avec un œil critique. Donc faites vos devoirs et essayez de suivre les médias qui donnent des bonnes informations, des bonnes analyses. Allez sur le site de RFI. Je pense qu'ils ont des correspondants, des analystes qui ont une approche quand même très différente de CNN et des autres médias. Mon édito aujourd'hui, je vais m'attarder sur ce premier forum ministériel sur l'immigration francophone qui s'est achevé le vendredi 31 mars avec l'annonce d'une modification linguistique au programme Entrée Express et la promesse de poursuivre le dialogue afin d'accroître l'immigration francophone à l'extérieur du Québec. Et oui, à l'issue du premier forum sur l'immigration francophone, le ministre néo-brunswickois de l'éducation postsecondaire, de la formation et du travail, responsable des langues officielles et du dossier de l'immigration, Donald Arsenault, parle d'un jour historique. Est-ce qu'il y a de quoi à célébrer? La conversation n'existait pas auparavant, dit-il. Les ministres de l'immigration et de la francophonie n'étaient jamais ensemble. Ah oui, autour de cette même table, dit-il. Là, on porte le dossier à l'avant-plan et on veut développer une stratégie conjointe. Les ministres des provinces et territoires, ainsi que leurs homologues du gouvernement fédéral, ont prévu de renouveler l'expérience d'un forum d'ici un an, mais aussi de mettre en place un comité mixte. Et oui, un symposium devrait également être organisé dans les prochains mois avec les communautés francophones afin de développer un plan d'action concret. Le gouvernement fédéral, pour sa part, s'est donné une cible de 4,4% d'immigration francophone à l'extérieur du Québec d'ici 2023. En 2015, celle-ci ne représentait que 1,3%. En Ontario, l'objectif de 5% d'immigration francophone fixé par le gouvernement de Kathleen Wynne, notre première ministre de la province, devrait bénéficier de ce premier forum. Et selon la ministre déléguée aux affaires francophones, Marie-France Lalonde, c'est une avancée pour nous aider à atteindre notre cible de 5%. Mais oui, c'est ce qu'elle a déclaré. Pour y parvenir, le ministre de l'immigration plutôt, des réfugiés et de citoyenneté Canada, Hamed Hussein, a profité de la tenue du forum pour annoncer qu'à compter du 6 juin prochain, les candidats à l'immigration qui utilisent le programme Entrée Express bénéficieront de 30 points, je dis bien de 30 points supplémentaires s'ils ont de solides compétences en français, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc, Entrée Express, ce programme, aurait permis d'accueillir 43 000 immigrants économiques depuis sa création en 2015. Et ce programme ne concerne toutefois que les immigrants hautement qualifiés, eh oui, dans les domaines spécifiques comme les sciences, la technologie, le génie ou les mathématiques. L'ajout de points pour le français ne donnera toutefois pas de priorité aux candidats francophones, mais simplement un petit avantage. Eh oui. Et il faut se rappeler qu'en 2016, madame, monsieur, seulement 17% des nouveaux immigrants admis au Nouveau-Brunswick étaient francophones, ce qui est très loin de leur objectif cible. Et cette province, je vous rappelle, espère augmenter ce nombre de 33% en l'an 2020. Selon mes sources, plusieurs représentants de certaines provinces, je ne dévoilerai pas mes sources, eh oui, ceux qui ont pris part à ce premier forum en sont sortis assez déçus. Pour d'autres, c'était un petit pas dans la bonne direction. Et plusieurs s'accordent pour dire « C'est bien beau d'avoir de belles stratégies en matière d'immigration francophone, mais le vrai problème, c'est quoi ?» Le plus grand obstacle demeure, pour beaucoup, l'équité dans l'emploi pour les immigrants francophones qui débarquent en Ontario ou dans d'autres provinces canadiennes, et surtout la reconnaissance de leur diplôme, le diplôme de ces professionnels francophones qui désirent s'intégrer sur le marché du travail en Ontario. À bon entendeur, salut. La parole est maintenant au groupe lauréat de notre... C'était dimanche dernier, hein? Juno, prix Juno à Ottawa. Écoutez bien, le groupe de CIUT, lancé même ici à cette antenne. Bravo au lauréat. Le nom du groupe, 416-946-7000. Et oui, le groupe de l'année, madame, monsieur, et bravo à notre ami, notre collègue qui anime l'émission cet après-midi sur les musiques du monde, la musique africaine, Oko Bongo African Orchestra, le groupe de l'année. Et oui, c'était au Juno Awards, le prix Juno, dimanche dernier à Ottawa. Tout le monde était vraiment très heureux pour eux, mais surtout pour Nadine McNulty, qui nous écoute peut-être aujourd'hui. Bravo, félicitations, voilà un bel exemple de la radio de l'Université de Toronto qui fait avancer la cause des immigrants francophones musiciens. Et oui, la culture progresse en Ontario grâce à CIUTFM.
Sur quelle planète suis-je tombée ?
La planète Terre.
Bonjour. RFI.
RFI, on en fait tout un monde.
Blablabla.
On n'a pas beaucoup de temps, donc je vous propose de vous concentrer sur des points précis qui sont au cœur de vos désaccords.
Blablabla.
Que proposez-vous précisément ? Vous ne faites pas le même diagnostic, ni vous n'avez les mêmes objectifs.
Souvenez-vous.
Quel accueil ! Quelle chaleur ! Oui, alors que s'achève un quinquennat calamiteux, alors moi je veux sortir de cette logique infernale. Mon diagnostic, il tient en deux phrases, sincères. Parce que vous êtes la France, c'est vous la France, c'est personne d'autre.
Cette élection présidentielle de 2017 met en jeu une alternative implacable. Ils disent interdépendance et ils pensent obéissance. Ils disent ouverture et ils pensent démantèlement. Ils disent mondialisation et ils pensent asservissement mondial.
Ça ne veut pas dire que nous pensons tous la même chose surtout. Mais ça veut dire que nous sommes tous pris dans cette comédie humaine. C'est cette ambition de faire ensemble et de donner à chacune et chacun sa place. C'est notre projet.
C'est un mensonge. Alors, monsieur Macron, il paraît que vous dites qu'il faut faire du préventif plutôt que de soigner. Non, mais là, commençons par dire qu'on va quand même soigner les gens, hein. Mais pensez que le suivant, il va vous faire pire. La madame Le Pen, soi-disant représentée de Boulier, le monsieur Fillon, qui vous a déjà collé 1 million de chômeurs sur le bras.
Comme l'extrême droite de Marine Le Pen, il faut propulser en face un imaginaire collectif puissant, puissant, qui corresponde à l'idée que l'on se fait des solidarités, de la démocratie, de la vie ensemble, de la justice sociale, de la redistribution. Bref, autant de choses centrales pour la gauche.
Blablabla, peuple français.
Et oui, aujourd'hui, mesdames, messieurs, dès midi, sur CUT FM, nous ferons chanter les candidats et peut-être nos invités. La présidentielle française, vue par des Torontois, des Français vivant à Toronto, des francophones à l'étranger, les francophones du monde. Une émission réalisée en partenariat avec Les Enfants Terribles, nouveau groupe d'un journal francophone sur le campus de l'Université de Toronto et Radio France Internationale.
Si vous avez la France au cœur, engagez-vous, parce qu'elle va en avoir besoin.
Peuple français, exigez-vous respect.
Et oui, c'est un événement, c'est presque un moment historique. Qui ne connaît pas Jean-Michel Jarre ? Eh oui, la légende de la musique électronique française donnera enfin son premier concert au Canada. Participez à nos jeux concours dès aujourd'hui et courez la chance de gagner des billets pour ce grand concert le 9 mai prochain au Sony Center for the Performing Arts à Toronto dans le cadre de sa tournée mondiale Electronica. Et notre partenaire, le journal L'Express de Toronto, l'a rencontré avant sa venue. Allez sur le site de L'Express Toronto pour tout savoir. Cela s'annonce comme un des rares grands moments culturels de l'année. Jean-Michel Jarre, la légende de la musique électronique française, donnera son premier concert au Canada. Ne ratez pas cette occasion historique et soyez parmi nos invités. Suivez-nous sur facebook.com/popourishow, devenez membre, ou encore sur Twitter #popourishow. Bonne chance.
des hypocrites. Des hypocrites.
Ils défendent les droits de l'homme, mais quand M. Sarkozy a été rencontré le roi, là-bas, le roi d'Arabie Saoudite au Maroc, il lui a dit, dites monsieur les droits de l'homme, vous allez arrêter de souhaiter à mort ce type qui a écrit un blog qui ne vous plaisait pas. Et quand monsieur Hollande a privatisé en bout de la plage, on l'a donné au roi d'Arabie Saoudite, on l'a donné au roi d'Arabie Saoudite, il lui a dit, dites-donc, faudra pas y aller en Burkina, y aller en Burkina.
Non, bien sûr que non.
Hypocrite, hypocrite, au nom de la République française, nous ne sommes pas dupes. Des hypocrites, des hypocrites, au nom de la République française,
ce sont des tartuffes. Ils défendent les femmes.
Le gouvernement français a-t-il dit au gouvernement israélien que nous ne supportons pas qu'un ministre là-bas refuse de serrer la main dans des nôtres parce que c'est une femme, parce que c'est une femme. Quand est-ce que la protestation a été émise? Jamais. 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 Quand est-ce que la protestation a été émise? Jamais. 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 Hypocrite. Hypocrite. Au nom de la République française.
Et oui, madame, monsieur, vous écoutez bien sûr une émission très sérieuse aujourd'hui dans la deuxième dès midi aujourd'hui, oui, avec nos invités et surtout les enfants terribles qui sont déjà avec nous. Plusieurs enquêtes indiquent un tassement des intentions de vote pour Emmanuel Macron et Marine Le Pen. C'est en dernière heure, selon le dernier sondage. Et à l'inverse, François Fillon et Jean-Luc Mélenchon progressent. La dégringolade s'accélère pour Benoît Hamon qui n'en finit pas de reculer et pointe désormais à la cinquième place dans les intentions de vote. Voici quelques questions que nous allons poser à nos invités d'ici à l'étranger. Quelles sont les différentes visions qui s'affrontent dans cette élection? Si la question identitaire a été relativement absente de ces débats, c'est peut-être que les Français ont d'autres préoccupations, à commencer par celle de l'emploi. La question de l'identité doit-elle vraiment être détachée de la question économique? Voilà les questions que nous allons poser à nos invités dès midi aujourd'hui. Popourri Show, l'émission qui vous mène jusqu'au bout du monde.
The sound of your city. CIUT 89.5, Toronto. Listen to us on the go with TuneIn Radio's free app. Or go to the live stream at www.ciut.fm. Right here, right now, every day. CIUT 89.5 FM.
Employeurs, employés, connaissez-vous vos droits? Droits du travail en direct sur CIUT 89.5 FM. Pour célébrer notre 30e anniversaire à l'antenne, nous sommes heureux de vous proposer une nouvelle chronique et un nouveau collaborateur et partenaire. Vos droits au travail, comment ça marche avec Maître Lamarche. Une fois par mois, Maître Lamarche du cabinet d'avocats Signe Lamarche, situé à Toronto, répondra à vos questions. Congédiement injustifié, congé de maternité, congédiement déguisé, droit de la personne, les obligations fiduciaires, les obligations post-emploi, le harcèlement au travail, les normes d'emploi, l'interprétation contractuelle, la rémunération pour des heures supplémentaires, les questions liées à la communauté LGBTQIA et les indemnités de départ. Vos droits au travail, comment ça marche avec Maître Lamarche en direct à l'antenne.
Vous écoutez Popourri Show sur CUT 89.5 FM. Une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Popourri Show, 30 ans déjà. Toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm ou www.popourrichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89.5 FM.
Bientôt, Toronto sera en Haïti grâce à RFI sur votre fréquence.
Bonjour et merci de nous accompagner ici à Port-au-Prince. Nous sommes
dans le studio que RFI a monté tout spécialement pour ces 2 heures d'émission que je vais avoir le plaisir de vous présenter en direct de la capitale haïtienne avec des invités, avec notre correspondante Amélie Baron. On va parler politique, société, on va parler de l'avenir d'Haïti. J'espère que vous serez fidèles au rendez-vous. On compte sur vous.
Mais ça du peuple a chargé mais toi nécessité yo. Sécurité, santé à tous se manger. Nous c'est un peuple capable et bien sans c'est nous planter, c'est nous pour écolter tête calée, faut respect nous y souffler.
Et oui, madame, monsieur, du 10 au 13 avril prochain, Haïti sera à l'honneur au lycée français de Toronto avec la Semaine internationale d'Haïti. Cette activité permettra notamment aux élèves, aux enseignants aussi peut-être, à découvrir la culture haïtienne dans toute sa splendeur. Voilà une très belle initiative du lycée français de Toronto, bravo. On nous dit aussi qu'une déferlante de saveurs, de couleurs et de musique est à prévoir. Allez sur le site www.lft.ca pour tout savoir du lycée français de Toronto. Et inauguré justement en 1995, le lycée français est le seul établissement scolaire à Toronto qui dispense l'éducation intellectuellement stimulante du programme scolaire français et de ses valeurs dans une perspective canadienne. De la maternelle à la terminale, les élèves évoluent dans un environnement qui conjugue le meilleur des deux cultures. Une école laïque et mixte de 500 élèves environ, d'origine et de cultures différentes. Le français est la langue maternelle pour plus de la moitié de ses élèves. Et en plus de l'anglais et du français, nombreux sont ceux qui parlent une autre langue, comme le mandarin, l'arabe, l'espagnol, l'italien, le portugais, le russe et le hindi. Et oui, la taille de l'établissement, avec une moyenne de 18 élèves environ par classe, permet de créer une communauté solidaire, respectueuse et bienveillante. Et oui, j'y ai été cette semaine. Vu de mes yeux vus. Et notre invité est à Toronto depuis 2014. Il a d'abord été proviseur adjoint au lycée français de New York, puis proviseur de l'école internationale AWTY de Houston, après avoir travaillé durant 13 ans aux États-Unis. Et oui, j'ai eu le bonheur de le rencontrer récemment et je dois vous avouer que c'est un homme d'une grande écoute, accueillant. Et il a une vraie passion pour le dialogue des cultures. Son slogan est engagement, excellence et diversité. Madame, Monsieur, cela nous fait plaisir d'accueillir pour la première fois, et j'espère que ce n'est pas la dernière fois, Monsieur Boulaem Maizia, proviseur du lycée français de Toronto. Bonjour, Monsieur Maizia.
Bonjour, Monsieur Kader. Merci pour votre invitation.
Oui, cela me fait plaisir. Alors, nous nous sommes rencontrés récemment. Et j'ai visité avec grand plaisir, j'ai eu le bonheur de découvrir cette école qui, dans le passé, il faut le dire, était plus accessible parce que vous étiez à la rue Charles, au centre-ville de Toronto. Et maintenant, vous avez déménagé depuis quelque temps, vous êtes à Dufferin. Et Dufferin est quelle rue? Eglinton, je pense.
Dufferin et Eglinton. Ouais. Oui, on a déménagé pour des raisons de succès, en fait, pour des bonnes raisons. On a déménagé parce que notre effectif grandissait et il continue à grandir. Vous avez eu la gentillesse de faire un tableau très élogieux de notre école. Je vous je ne vous contredirai pas, je trouve que l'école est effectivement une superbe école. Mmh. Et ce que vous avez ressenti, beaucoup de visiteurs le ressentent, c'est-à-dire cette chaleur, cette ouverture d'esprit. Et c'est vrai que nous avons la chance d'avoir cette école et j'ai la chance de diriger cette école avec un conseil d'administration et je salue le président Jean-Philippe Morsanger de soutenir ainsi le lycée. C'est une mission très difficile. Je le remercie de son soutien et de sa confiance.
Oui, et alors, tout d'abord, avant de parler un petit peu de ce qui différencie votre école et les autres institutions de l'éducation en Ontario ou à Toronto, nous allons parler de cette activité que je trouve fort intéressante parce que ce n'est pas la première fois. Hein. Vous avez déjà célébré d'autres pays dans votre école, n'est-ce pas?
Oui, c'est une tradition de l'école. Donc, c'était avant que j'arrive et bien avant que j'arrive, une tradition qui s'était dans l'école. Et quand je suis arrivé, on m'a effectivement expliqué qu'une semaine par an, on avait un espèce de festival international ou en tout cas une semaine internationale et on devait choisir collectivement un pays à célébrer. Donc quand je suis arrivé la première année, nous avons choisi de célébrer le Liban, qui est un pays francophone, et on avait de nombreuses familles libanaises qui font confiance à cette éducation française dans le monde, beaucoup de lycées français ou en tout cas de lycées à programme français au Liban, et des parents libanais qui nous soutiennent vraiment et qui ont confiance à cette éducation et cette culture-là. La deuxième année, on a souhaité faire célébrer la Chine, puisque la Chine, c'est un pays que nous étudions d'une certaine façon, puisque de nombreux élèves étudient le chinois. Nous avons un professeur formidable qui s'appelle Melody Chang, qui est un professeur de mandarin exceptionnel. Là, je dis ça, en plus, elle ne peut pas me comprendre, parce qu'elle ne parle que le mandarin et l'anglais, elle ne parle pas le français. Donc, je la félicite, donc c'est une félicitation. Mais en tout cas, c'est formidable. Et cette année, Haïti, on s'est posé quand même un certain nombre de questions. Et Haïti est un pays oublié, je trouve, trop souvent. Quand il y a une catastrophe, on se rappelle d'Haïti, puis après on l'oublie. Donc on voulait attirer l'attention à nos élèves, qui sont quand même des élèves internationaux. Et c'est vrai que on peut parler de l'école, et en même temps, quand on célèbre ce genre de choses, c'est aussi pour continuer notre mission pédagogique et éducative. On ouvre les élèves, leur esprit, à cette culture différente et on leur dit ben regardez ce qui se passe dans le monde. On veut faire d'eux des élèves avec une éducation française, certes, mais aussi avec une culture du monde. Et ça, c'est important.
Oui.
C'est-à-dire regarder comment on vit la planète.
Oui. Et ce qui est intéressant, et je l'ai fait un peu à ma façon, à notre façon, à la radio et notre entreprise, dans certaines autres écoles dans les années 90, vous allez présenter des modèles de la communauté haïtienne à ces jeunes parce que justement, pour démystifier toutes ces images négatives, bien souvent, qu'on voit dans nos médias ou dans nos journaux. Alors, donc, vous allez inviter plusieurs personnalités, mais aussi des artistes de la région pour contribuer à cette semaine internationale.
En fait, on les présente souvent et c'est un défaut de fabrication parce qu'on s'intéresse à l'éducation et la culture n'est jamais très loin. C'est-à-dire que la porte d'entrée, c'est la culture, c'est le culturel. Et c'est vrai que les deux personnes qui ont répondu présent tout de suite, c'est Mme Jacqueline Jean-Baptiste qui a réalisé un documentaire sur la peinture haïtienne.
On la connaît bien, Jacqueline Jean-Baptiste.
Donc, et nous, on la remercie parce qu'en plus, elle va nous prêter les tableaux. Donc, non seulement nous avons bien entendu fait l'acquisition de son DVD qu'on va présenter, mais aussi on va avoir des vrais tableaux. Après, et puis bien sûr que ça fait son chemin puisque à la maternelle ou même au CP, donc les deux professeurs des écoles du CP, Kera et Blandine, on commence à faire des dessins avec leurs élèves et on va certainement proposer ces dessins à la vente et non pas pour faire du bénéfice, mais si on arrive à avoir quelque argent, cet argent on va le donner. On va le faire passer au lycée français de Port-au-Prince, puisque je les ai rencontrés, j'ai rencontré les dirigeants de cette école il n'y a pas longtemps dans une réunion sur l'Amérique du Nord et l'Amérique centrale, quoi, et les Caraïbes aussi. Et donc, je leur ai dit, nous, on aimerait faire quelque chose sur Haïti, comment on peut aider? Ils nous ont dit, mais donnez-nous quelques fonds, et nous, on connaît les écoles voisines à aider. Donc, c'est en plus la grande famille des écoles françaises dans le monde, et donc, on s'aide sur un projet comme ça. Et donc, je finis avec la culture. Donc, on va avoir la peinture et on va avoir l'écriture. Donc, Gabriel Osson, que vous connaissez aussi, M. Kader, va venir chez nous et parler de son livre, Hubert, le reste avec. Et là, c'est pareil, cette entrée culturelle est primordiale. C'est-à-dire que pour les jeunes, pour nos enfants, et sensibiliser à la culture, c'est cette porte d'entrée qui est formidable. Donc, c'est vrai qu'on a plutôt tendance, en cette période électorale, de faire une entrée par l'économie et par les finances. C'est dommage de ne pas commencer les discours politiques par des dimensions culturelles et éducatives.
Ouais, on va parler de culture justement dans la deuxième heure avec des jeunes et des professeurs de l'Université de Toronto sur ces débats, mais aussi les élections présidentielles françaises. Alors, vous allez aussi avoir des chansonnettes haïtienne, peut-être notre amie qui est Sloane Ballant, qui est d'origine haïtienne d'ailleurs, pourra m'aider à chanter les berceuses, n'est-ce pas, haïtiennes. Et aussi, il va avoir une déferlante de saveurs, parce que je pense qu'il y a une journée où les étudiants, les professeurs vont pouvoir goûter à la cuisine haïtienne, n'est-ce pas?
Oui, et c'est vrai que juste avant de parler de nourriture, et c'est important aussi, une autre porte d'entrée culturelle, on a aussi une maman d'élève qui est haïtienne, qui s'appelle Chloé Roumain, qui va venir faire lire des textes en créole dans la suite et qu'elle parle le créole. Et donc, elle le fera. Et puis, il y a aussi une ancienne employée de l'école, Marie-Honora, qui nous a aidés. Et puis, une employée actuelle qui est haïtienne, Marie-Marthe aussi, qui est très timidement, nous a donné quelques pistes. Et puis, donc, pour le repas, dans cette semaine internationale, il est de tradition de faire un repas à la manière du pays que nous honorons. Donc, cette année, Haïti. Il se trouve que le chef qui nous fait les repas, Guy, à son second qui est haïtien. Et donc, quand on lui a dit, est-ce que vous pourriez faire quelque chose, il dit, bien entendu. Donc, le jeudi 13, les élèves qui d'habitude mangent, entre guillemets, à la cantine, auront un repas spécial. Ah. Et puis, ceux qui veulent, qui ne sont pas au programme cantine, mais qui veulent venir, peuvent aussi s'inscrire.
J'ai déjà l'eau à la bouche. Assez. J'ai déjà l'eau à la bouche.
Bon, venez, vous êtes bien sûr, monsieur Galère, bien sûr, vous êtes invité à venir déjeuner et partager ce repas avec
vous. Oui. Alors, là, il faut parler, le temps passe. Justement, qu'est-ce qui différencie le lycée français de Toronto et les autres institutions?
Alors nous sommes, alors c'est pas prétentieux de dire ça, nous sommes la seule école française homologuée, c'est-à-dire reconnue par l'éducation nationale, de la maternelle à la terminale. Donc là, nous sommes la seule école française à Toronto à avoir ce programme-là. Nous suivons le programme français. Bien entendu, nous l'adaptons aussi avec la permission d'autorisation de nos instances de l'éducation nationale, parce qu'il ne faut pas croire que l'école de Ville-Ferry existe encore. Elle n'existe plus depuis très longtemps. Ouais. Donc les racines sont là, mais en revanche, la pratique est différente. Donc nous faisons, nous, un programme français adapté au Canada. Donc la bienveillance, ça c'est important. Pour moi, c'est primordial que les professeurs soient en même temps enseignent le programme français, mais soient bienveillants vis-à-vis des élèves. Donc cette approche nord-américaine qu'on appelle le renforcement positif soit complètement intégrée dans nos pratiques. Donc on est différent parce que le programme est différent. L'approche, elle est peut-être identique. J'ai beaucoup de respect pour l'éducation canadienne, sauf que c'est parce que le programme est différent. Donc je ne dis pas que c'est mieux ou moins bien. Je pense que nous avons une spécificité, que notre éducation est unique, qu'elle est peut-être, elle est reconnue dans le monde. La preuve, le réseau des écoles françaises dans le monde, c'est pratiquement 500 élèves. Alors c'est une agence qui s'appelle l'Agence de l'enseignement français à l'étranger. L'Agence de l'enseignement français à l'étranger, je le dis plus doucement, regroupe ces écoles françaises dans le monde. Donc nous faisons partie de ces écoles-là. Il y en a une à Ottawa, deux à Montréal, plusieurs à New York, deux à Chicago, etc., etc., etc. Nous appartenons à cette même famille et nous défendons les valeurs de l'éducation française.
Vous savez, quand j'ai visité votre institution récemment, j'ai eu l'impression que j'étais dans une maison de culture. Il y avait un professeur avec sa guitare qui apprenait des chansons en anglais à des étudiants. Et puis, il y avait vraiment une chaleur humaine dans cette école. Je ne critiquerai pas les autres institutions, mais je trouve très relax chez vous, quand on est chez vous. C'est toujours comme ça? C'est toujours le cas?
Oui, c'est toujours. Il n'y avait pas de jeu. On n'avait pas demandé aux élèves de jouer la comédie parce qu'ils étaient là, parce qu'ils ne savaient pas où ils allaient venir. Ouais. Non, c'est effectivement très relax. C'est-à-dire que nous avons la chance aussi d'avoir des familles qui nous ont choisis. Ouais. Ça, c'est le hic, c'est que les familles qui viennent chez nous ont choisi de venir chez nous. C'est pas... Et donc, ils croient aussi à notre programme.
D'ailleurs, je dois dire aux gens d'aller sur votre site internet, votre site web plutôt, parce qu'il y a des vidéos avec les témoignages de ces familles. C'est assez poignant, c'est très enrichissant pour bien comprendre pourquoi ils envoient leurs enfants dans cette institution, le lycée français de Toronto. Et aussi, je pense que ces élèves, une fois terminés les études au lycée français de Toronto, peuvent avoir une grande ouverture sur plusieurs universités, que ce soit au Canada, mais aussi à l'étranger, aux États-Unis, n'est-ce pas?
Les élèves restent principalement en Amérique du Nord. C'est à peu près, sur les 6 dernières années, c'est à peu près 70% des élèves qui restent au Canada, quelques-uns qui vont en France, un peu moins, autour de 15 à 20% des élèves qui vont en France, et puis après en Amérique du Nord, aux États-Unis bien sûr, mais aussi en Angleterre, en Espagne, en Suisse. Et l'année dernière, on a un élève qui est parti en Espagne, cette année, il y en aura certainement un autre, deux en Suisse. Donc il y a vraiment ça. Bon, ils sont profondément nord-américains, donc nos élèves, mais avec cette éducation française, cette spécificité française qui fait que nous connaissons. Alors bien sûr, on nous accuse d'être arrogants ou prétentieux. Moi,
non.
Je veux l'entendre, mais je peux l'entendre, mais je n'y crois pas.
Qui vous a dit ça?
Oh, je ne sais plus. Des fois, je crois lire dans le regard de certains par rapport à ça. Mais c'est pas du tout de la prétention.
Ouais.
Nous croyons à ce que nous faisons, vraiment.
Mesdames, messieurs, je suis avec le proviseur du lycée français de Toronto, M. Boualem Maizia, et je pense que c'est un homme à rencontrer absolument, parce que je pense que vous êtes encore là pour encore quelques mois. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour vous garder à Toronto?
C'est très gentil, c'est vrai, je suis extrêmement touché par ce que vous dites. Je continue ma route dans l'école française, et après Toronto, et je garde un excellent souvenir de cette école. Et puis de toute façon, je suis encore complètement investi jusqu'à la fin de l'année scolaire. Je crois à cette école, je trouve que c'est une école formidable, vraiment. Et venez nous voir, appelez-nous, on organisera des tours pour l'école, et venez visiter cette école. Elle est formidable parce que nous avons des enseignants formidables et des élèves formidables. Mais je ne dis pas ça par démagogie, je crois à ce que nous faisons, je crois à la qualité de notre travail, des enseignants, mais aussi je crois à la qualité des familles qui nous ont choisi.
Du 10 au 13 avril, Madame, Monsieur, Haïti sera à l'honneur au lycée français de Toronto avec la Semaine internationale d'Haïti. Et avant de vous laisser, est-ce que vous regardez un peu les nouvelles en France? Vous suivez un peu de loin, de près, les élections présidentielles?
Je vais vous faire un aveu, Monsieur Kader. Je suis complètement accro aux informations à la radio. Donc, tous les jours, je lis les journaux, j'écoute sur Internet, j'écoute la radio en podcast, et oui, effectivement, je suis ça de très près. Et le consul général de France, qui fait un formidable travail, M. Marc Trouillet, m'a sollicité pour être président d'un bureau de vote dans quelques jours. Donc, vous voyez, je suis trop près des résultats aussi. Donc, bien sûr que je suis ça, avec grand intérêt. C'est quand même l'avenir de mon pays.
Oui, c'est une élection historique, je pense.
Oui.
N'est-ce pas?
J'espère que, ce sera historique. Et puis voilà, j'espère le mieux pour mon pays. Voilà.
Alors, vous savez, nous sommes très choyés. Nous avons des jeunes de l'Université de Toronto, des jeunes français, des francophones, des professeurs qui vont animer l'émission avec moi dans la deuxième heure. Je trouve ça très, très bien que les jeunes s'engagent dans le domaine de la politique et donnent leur avis, partagent leur opinion. Et je pense que si vous avez un mot à dire à ces jeunes qui sont avec nous en studio.
Oui, je pense qu'il faut s'intéresser, il faut s'informer. Mmh. Je pense qu'à l'heure de la culture zapping, où on a le sentiment qu'il y a tellement de fake news, comme on dit, de fausses informations, qu'il faut qu'ils fassent l'effort de chercher, de s'informer. Ouais. Chercher à comprendre, continuer à chercher à comprendre, interrogez-vous. Il y a des journaux, alors bien sûr je vais citer Le Monde, mais Le Monde c'est une rubrique de décodage, les décodeurs du monde, c'est important.
RFI
voir.
Est là.
RFI aussi, et bien entendu, mais aussi essayez de chercher à comprendre. Ne prenez pas ce qu'on dit pour argent comptant.
Voilà.
Cherchez à comprendre, et si vous ne savez pas, demandez de l'aide.
Merci beaucoup, Monsieur Boualem Maizia. Cela nous fait très plaisir, et revenez nous voir, les portes du studio vous sont grandes ouvertes.
Dès que vous m'invitez, je reviens.
Allez, et bonne chance pour la Semaine internationale d'Haïti.
Merci. À bientôt, au revoir.
Au revoir. Habibi, nou pase Israel, juif yo din yo reme ken skor Ba bankou in the air, ba the top Yo nou go Haiti, nou pa bezwen peng peng Nou bezwen highway, kankou se domen Te kero da sushi se wen ame Puerto Rico Venezuela, Island, Cuba, Santo Domingo Trinidad down in Jamaica, down in Mexico Te cole, I wanna see my people out the rubble
Zouk et uniquement Zouk. Écoutez Tropic Zouk, la web radio de Tropic FM. Tropic Zouk pour les zoukers nés.
Écoutez cette web radio sur notre site www.tropicfm.com sur iPhone, iPad et Android en téléchargeant gratuitement l'application sur Apple Store.
Ah, que j'aime bien. J'ai grandi, moi, avec Jean-Michel Jarre. Eh oui, je ne vous dirai pas mon âge. Eh oui, c'est un événement historique, madame, monsieur, à ne pas rater, à lire absolument dans le journal L'Express de Toronto, dernière édition. Merci à François Bergeron. Et il est l'heureux gagnant d'un certificat de reconnaissance, mais il n'est pas venu, il n'est pas passé à notre cocktail. Mais on enverra son certificat cette semaine. Jean-Michel Jarre, donc, la légende de la musique électronique française, donnera son premier concert au Canada. Si vous voulez gagner des billets, écoutez notre émission, participez à nos jeux concours sur le web, Facebook, Twitter, au Centre Sony, et oui, for the Performing Arts à Toronto. Ce sont les grands qui vont là, oui, dans le cadre de sa tournée mondiale Electronica.
Une campagne super, Fillon, voilà, il est en face de moi. Que des histoires, et plus on fouille, plus on sent la corruption, plus on sent la triche. Et à côté de ça, donc, en plus, c'est des bonhommes qui nous expliquent qu'il faut la rigueur, qu'il faut l'austérité, et eux-mêmes, ils piquent dans les caisses publiques, donc il y a quand même un petit problème de ce côté-là. Là, après, vous pourrez parler.
Non, monsieur Fillon, vous pourrez parler après. Comme ça.
Oui, non, d'accord.
Ah,
oui.
Ah, merci.
Donc, bon, c'est ce que j'ai dit, je l'ai dit. Ensuite, il y a aussi Le Pen, hein, à côté. Alors, elle va peut-être réagir aussi. Mais Le Pen, pareil, on pique dans les caisses publiques. Alors là, c'est pas ici, c'est l'Europe. Alors l'Europe, pour quelqu'un qui est anti-européen, ça gêne pas de piquer de l'argent de l'Europe. Et le pire, c'est qu'en plus, le FN, qui se dit anti-système, ne s'emmerde pas du tout, se protège grâce aux lois du système, grâce à l'immunité parlementaire. Et donc, refuse d'aller aux convocations policières.
Et oui, madame, monsieur, voilà, ça c'était lors du débat, le grand débat avec les 11 candidats. C'était mardi dernier à la télévision. Et oui, alors, je vous rappelle rapidement que notre premier ministre canadien est actuellement en France pour le 100e anniversaire de la bataille de la crête de Vimy. Un programme serré devant le Menet dans les hauts lieux de la région où les soldats canadiens se sont démarqués au cours de la Première Guerre mondiale et où plusieurs milliers sont morts. Ne pas oublier, durant cette guerre en France, plus de 11 000 soldats canadiens ont été portés disparus et présumés morts sans sépulcre connu. Et au cours de la seule bataille de Vimy, qui a commencé au matin du 9 avril 1917 et qui a duré 4 jours, les pertes humaines ont été lourdes. Et oui, des quelques 100 000 membres du corps canadien qui ont servi durant la bataille, environ 3600 y ont laissé leur vie et plus de 7000 autres ont été blessés, selon les chiffres du ministère des Anciens Combattants. Et à l'hôtel de ville d'Arras, le Premier ministre assistera d'abord à la cérémonie du coquelicot, de la paix, avant de rencontrer le président français, François Hollande, avec lequel il aura un dîner de travail ce soir, sans doute. Et plus près de nous, à l'hôtel de ville de Toronto, une cérémonie a lieu en ce moment même, avec plusieurs membres de la communauté canadienne et française. Et rapidement, si j'ai le temps, les rendez-vous de nos partenaires. Le Club canadien de Toronto a le plaisir de vous convier à son prochain déjeuner conférence d'affaires le mercredi 12 avril prochain à l'hôtel Fairmount Royal York. C'est à la rue Front West, salle impériale. Et quel avenir pour le journalisme politique à l'ère numérique? Ce sera la thématique abordée par M. Daniel Lessard, collaborateur politique à la Société Radio-Canada. Je vous rappelle qu'il a fait ses débuts en radio privée en 1969 avant d'entrer à Radio-Canada, Ottawa, en 1972. Ce sera aussi un moment pour rendre hommage à un grand journaliste franco-ontarien qui nous a laissé récemment. Eh oui, vous connaissez son nom? Appelez-nous. Je vais voir si vous suivez les informations de nos médias partenaires ou de CUTFM 416-946-7000. Qui est ce grand journaliste franco-ontarien qui est décédé pas tellement longtemps, donc on va lui rendre hommage cette semaine. Donc, si cela vous intéresse, lundi 10 avril, Club canadien de Toronto, le téléphone, il faut réserver vos billets, vos places, 416-243-06-62. Et justement, on a le temps, encore 2 secondes. Alors, dans quelques minutes, nous allons entrer en onde avec une autre tranche thématique sur les élections présidentielles françaises. Et justement, à la une de Libération, journal français ce matin, on voit que Marine Le Pen en Corse entre drague et baston. Un article très intéressant, très marrant aussi, mais c'est pour montrer qu'elle a été très mal accueillie hier à Ajaccio. Voilà. Alors, pour tout de suite, le point de l'actualité internationale avec Radio France Internationale.
Vous écoutez Potpourri Show sur CUT 89,5 FM, une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Potpourri Show, 30 ans déjà, toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm ou www.popourichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM.
CIUT 89.5 FM, the station that brings you early North American country music and bluegrass on Radio Boogie with Steve Pritchard, Wednesday afternoons at 3.
CIUT 89.5 FM, the sound of your city.
We're back with our 30th anniversary spring membership drive happening May 8th to 14th. You can show your support for CIUT early by going to www.ciut.fm and clicking Donate Now.
Right here, right now. Every day, CIUT 89.5. The sound of your city. Toronto. Right here, right now. Every day, CIUT 89.5. The sound of your city. Toronto.
Le point sur l'actualité.
Gilles Moreau.
C'est parti pour 3 minutes. Si la voix tient la distance, croisons les doigts. Dans l'actualité, les bombardements en Syrie, 18 civils, dont 5 enfants, tués hier dans la province d'Idlib. Dernier grand bastion des insurgés dans le nord-ouest du pays. Bilan rapporté par l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Leur aide aurait été menée par l'aviation russe. Il a touché le village d'Urum al-Joz, situé dans la même province que la localité de Khan Cheikhoun, qui elle a été visée par une attaque chimique en début de semaine. En Suède, la police pense avoir arrêté l'auteur de l'attaque au camion qui a fait 4 morts vendredi dans le centre de Stockholm. L'homme a été arrêté vendredi soir dans la banlieue nord de la ville et placé en garde à vue. C'est un Ouzbek de 39 ans, connu des services de renseignement. Il est trop tôt pour dire s'il a agi ou non seul. En tout cas, l'attaque n'a pas été revendiquée. À Stockholm, ville très paisible en temps normal, la population est choquée et en colère. Une cérémonie d'hommage aux victimes aura lieu demain, lundi, en milieu de journée. Un nouveau Premier ministre au Mali, le président Ibeka, a nommé Abdoulaye Idrissa Maïga, un proche du chef de l'État qui, jusqu'à aujourd'hui, était ministre de la Défense. En RDC, le nouveau chef du gouvernement est un dissident de l'opposition, Bruno Tshibala, et sa nomination par le président Kabila a été fustigée par l'opposition qui parle de récompenses à la trahison et de scénarios de mauvais goût. En Tanzanie, on a retrouvé le rappeur qui avait disparu depuis 3 jours. Roma Katoliki, connu pour ses textes anti-gouvernementaux. Il avait été enlevé par des inconnus avec 4 de ses collaborateurs. Il est réapparu sain et sauf alors qu'il était interrogé par la police à Dar es Salaam. À nouveau, des heurts à Caracas entre forces de l'ordre et manifestants vénézuéliens. Une manifestation a rassemblé des milliers d'opposants au président Maduro, la 4e en une semaine. Les manifestants ont été repoussés à coups de gaz lacrymogène, de canons à eau et de balles en caoutchouc. Du côté de l'opposition, c'est la colère qui domine après l'interdiction faite à Enrique Capriles, l'un de ses chefs, de se présenter aux prochaines élections. Le désarmement de l'ETA a été salué par la France alors que l'Espagne demande beaucoup plus. C'est une liste fournie par l'organisation basque qui a permis de mettre la main sur un arsenal dans le sud-ouest de la France. Pour le gouvernement espagnol, l'ETA doit maintenant demander pardon à ses victimes et disparaître. Enfin, un résultat de football pour le compte de la 32e journée de Ligue 1. La déroute de Lyon battue à domicile 4-1 par Lorient.
Vous écoutez une émission spéciale. Aujourd'hui, exceptionnellement, nous cédons l'antenne à vous, madame, monsieur, à vous, les jeunes, à vous, les professeurs, à vous, les auditeurs d'ici et à l'étranger. Une émission réalisée en partenariat avec Les Enfants Terribles, nouveau groupe d'un journal francophone sur le campus de l'Université de Toronto et Radio France Internationale. La présidentielle française vue par des Torontois et des francophones du monde. Et oui, madame, monsieur, les jeunes électeurs français, encore plus déroutés que leurs aînés, selon un dernier sondage, bien qu'intéressés par l'élection présidentielle, les primo-votants sont perplexes et la campagne ne déclenche pas un désir de participation particulier. Par contre, nous avons le plaisir et le bonheur d'avoir des étudiants en force et en forme ce dimanche à Toronto. Si vous êtes à l'étranger, peut-être il est minuit chez vous ou 2h du matin, mais j'espère que vous nous écoutez sur Internet et que le message passe, le son passe. Bonjour Koya.
Bonjour Eric.
Alors Koya, ça fait quelques semaines que tu viens à l'émission. Je pense qu'il a débuté avec notre cocktail et il a participé à un concours littéraire et finalement il est devenu un peu accro de notre émission.
Ah oui, ça fait plus d'un mois que je suis avec toi aujourd'hui et je suis très très content.
Oui. Alors Koya, tu vas nous présenter tes amis, des invités qui sont autour de la table et ceux et celles qui sont ailleurs dans le monde.
Très bien. Alors aujourd'hui, je ne suis pas venu tout seul. Je suis venu accompagné de Charlène Anania, étudiante à l'Université de Toronto aussi. Elle est parisienne. Elle est rédactrice à The Varsity et au Strand, qui est un journal du Victoria College. Je suis aussi venu avec Toby. Qui lui fait partie des Enfants Terribles, le journal francophone de l'Université de Toronto, et lui il s'occupe de notre site et il est toujours là avec sa bonne humeur et c'est toujours un plaisir de l'avoir avec nous. Et je suis aussi avec Chloé. Chloé c'est aussi la coprésidente avec moi des Enfants Terribles et elle est venue aujourd'hui nous rejoindre sur le débat sur les présidentielles. Plus tard on aura l'occasion d'appeler Samuel Ferré qui lui est un étudiant en sciences politiques à McGill au Québec. J'espère
l'Université McGill
oui. Pardon. Et j'espère qu'il aura aussi beaucoup de choses à dire sur les présidentielles. Et pour finir, on aura Élie Lafont, qui lui est un élève à Sciences Po Le Havre. Et en ce moment, il fait un semestre à l'étranger, c'est-à-dire à l'Université de Pékin.
Mmh. Et je pense que nous avons des professeurs aussi qui sont avec nous aujourd'hui.
Tout à fait. On sera accompagné de Pascal
Michelucci,
qui lui est le directeur du département de français de l'Université de Toronto.
Le centre-ville.
Exactement, Campus Saint-Georges. Et aussi Caroline Lebrec, qui, elle, nous appellera de Mississauga. J'ai hâte d'entendre ce qu'elle a à dire. Je pense que ce sera très intéressant de nous avoir tous ensemble.
Oui, aujourd'hui. Elle est bien sûr à l'Université de Toronto, campus de Mississauga, qui est tout nouveau, très beau. Je dois dire, l'architecture là-bas, c'est tout nouveau, madame, monsieur, il faut aller faire un tour. Et ce sont des gens très actifs dans le domaine de la francophonie. Et j'en connais quelque chose avec le mois de la francophonie. Alors, mes chers amis, bonjour et bienvenue encore à l'antenne. Qu'en pensez-vous justement de cette élection que certains disent historique? Est-ce que, en tant qu'Européen, parce que je pense Toby est originaire de la Belgique.
De la Belgique, tout à fait.
Voisin de, je sais pas, par le train, c'est en une heure, je pense, on est en Belgique,
ouais,
n'est-ce
train,
pas?
Train, une heure et demie, en voiture, deux heures et demie.
Et on n'a pas besoin de passeport pour l'instant.
Bah non, l'Union Européenne.
C'est la libre circulation. Oui, alors on verra bien si cela va durer après le 17 mai prochain.
Bah on l'espère.
Oui, est-ce que justement, même si vous êtes sur le territoire canadien, cela vous intéresse, cela vous inquiète?
C'est toujours, je pense, très intéressant et très important d'être connecté puisque c'est quand même notre pays d'origine. Et l'Europe, c'est une fondation qui est très importante dans notre éducation, dans notre jeunesse et dans nos opinions politiques puisque ça dicte un peu quel candidat est-ce qu'on va suivre et soutenir.
Alors souvent, on dit que les jeunes ne suivent pas la politique. Il y a plusieurs sondages qui trouvent que les jeunes sont déconnectés complètement.
Non, c'est faux.
Pour les sceptiques, justement...
Alors déjà, quand on parle de politique, ça englobe beaucoup de sujets. Il y a l'environnement. C'est un sujet qui nous intéresse beaucoup parce que finalement, ce sera à nous de nous en occuper. Donc je pense que ce domaine particulier de la politique intéresse tous les jeunes. Pour ça, je pense que c'est faux. Et comme je le disais la semaine dernière avec Toby, ce qui nous manque aux jeunes, finalement, c'est un média sur lequel nous exprimer. Et finalement, nous, les jeunes, on n'a pas accès, on n'a pas nécessairement accès ni à la radio, ni aux journaux, ni à, ni à, à des blogs sur Internet. Et peut-être que finalement, ça te donne cette impression-là. Mais aujourd'hui, tu as quatre jeunes en face de toi et on est très, très intéressés par ce qui se passe en France.
Oui, mais il faut quand même admettre que les gens sont un peu confus. On a vu lors de ces débats, surtout le dernier débat, est-ce que vous l'avez suivi ?
Oui, très bien.
Et 11 candidats, 11 positions différentes, 11 visions différentes de la France, ça fait un peu beaucoup. Hein, et les gens sont confus, mêlés, pas vous ? Non ?
Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un qui aurait vu le débat veut répondre ?
Oui, vas-y.
Honneur aux dames, je vous en prie.
Ok, je pense que c'est intéressant parce que malgré les 11 candidats, on a quand même beaucoup de points de vue différents et je trouve qu'on est vraiment dans l'extrême. Tout le monde propose un programme très différent et étant dans une génération qui, soi-disant, ne fait pas attention à la politique, je pense que c'est pas vrai. Je pense que la politique s'infiltre dans notre vie. Je pense qu'on peut voir que les candidats ont des points de vue qui, justement, représentent des personnes qui sont très différentes, personnes et similaires en France, mais on partage cette nationalité et c'est important de participer.
Mm-hmm.
Donc, Toby.
Non, je suis d'accord, je voulais juste dire que c'est vrai que 11 candidats, ça fait beaucoup et il y a beaucoup d'opinions différentes. Mais je pense qu'en général, ça représente bien la globalité de la population française. Et je pense que chaque habitant peut se référer et se reconnaître des éléments communs avec chaque candidat. Et justement, j'ai regardé le débat la semaine passée et c'était vraiment super intéressant, beaucoup de différentes opinions. Et... ouais, non, ça va être intéressant ce qui se passe et j'ai hâte de voir comment ça va tourner.
Alors, il y a beaucoup de gens qui trouvent qu'il y a une démarcation quand même à faire parce que souvent, on a été bombardés et peut-être secoués aussi par ce qui s'est passé aux États-Unis. Et on voit qu'il y a des gens qui font référence à Donald Trump, qu'il y a peut-être même une main invisible ou magique, sournoise sur Marine Le Pen pour déstabiliser le candidat ou les candidats favoris pour le deuxième tour. Est-ce que, justement, vous n'avez pas un peu peur de ce qui s'est passé aux États-Unis, de voir que le même scénario se répercute dans cette élection française ?
Alors, je pense déjà que la population française est complètement différente de la population américaine et que c'est une culture qui est très différente, mais surtout parce que la politique est au centre du débat des Français tous les jours et c'est un sujet qui est très important, différent des Français. Et le phénomène de Donald Trump est quelque chose qui est arrivé aux États-Unis et qui, je pense, sera compliqué d'arriver en France, que Marine Le Pen a des opinions qui sont très ethnophobiques et qui sont très aussi anti-Europe, et ça c'est quelque chose qui est tellement important pour la France que ça sera dur d'avoir qu'elle passe avec ça.
Alors il y a deux sujets qu'on voit qui répercutent continuellement dans ces débats, dans les démêlés des candidats en France. Il y a la question identitaire et la question du travail, le droit au travail, c'est-à-dire l'emploi.
Bah justement, Nathalie Arthaud en parlait durant les débats de mardi dernier. Elle avait mentionné le droit au travail inscrit dans la Constitution. Mmh. Et c'est un droit. En tant que Français, on a le droit à un travail. Et bien que ce soit compliqué de trouver un travail pour tout le monde, c'est une obligation du gouvernement et il faudrait travailler dessus.
Dans un instant, nous allons accueillir notre premier invité en ligne, professeur Pascal Michelucci. Madame, monsieur, restez des nôtres.
Vous écoutez Potpourri Show sur CUT 89,5 FM, une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Potpourri Show, 30 ans déjà, toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm. ou www.popourichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM.
Émission spéciale aujourd'hui à l'occasion justement de la présidentielle française. Présidentielle française vue par des Torontois, des francophones, des Français vivant ici, mais aussi à l'étranger. Une émission réalisée en partenariat avec Les Enfants Terribles, nouveau groupe d'un journal francophone sur le campus de l'Université de Toronto et en partenariat avec Radio France Internationale. Alors à l'étranger, l'élection française suscite une couverture médiatique inédite et beaucoup d'inquiétudes. Le manège fou de la présidentielle ne fait pas tourner que les têtes françaises. Du renoncement de François Hollande à l'affaire Fillon, la campagne 2017 est tant sujette aux rebondissements que plus rien n'est à exclure, en tout cas aux yeux des médias du monde entier. Et dans quel état en sortira la France au mois de mai? Les journaux comme Le Lecteur s'interrogent. C'est l'élection la plus imprévisible depuis des décennies, affirme le quotidien anglais The Daily Telegraph. Et la course à l'Élysée, la plus folle de tous les temps, dit le Corriere della Sera. Et nous avons le plaisir d'accueillir professeur Pascal Michelucci, directeur du département de français à l'Université de Toronto. Bonjour Pascal.
Bonjour Eric, bonjour les enfants.
Bonjour
les enfants. Bonjour. Bonjour monsieur, comment allez-vous?
Très très bien ma foi, une belle journée de dimanche torontois.
Bien sûr, alors Pascal... merci infiniment d'être là, pour votre disponibilité. Vous répondez toujours présent à nos invitations.
C'est avec plaisir. Hein?
Quelle est votre réflexion justement sur cette campagne présidentielle sans précédent, d'après certains?
Moi, je trouve que c'est plutôt inspirant de voir que la vie politique française est en train de se réorganiser. Ce qui est très frappant, c'est qu'un parti... comme les Républicains, qui a été réinventé il y a à peine 2 ans, est en complète stagnation dans les sondages. Le parti va devoir se recomposer. Oui. Le Parti socialiste, qui existe depuis plus de 100 ans, devient inexistant dans les sondages. Et à oui. côté de ça, on a l'émergence d'une nouvelle force politique. Donc, c'est plutôt enthousiasmant, je trouve.
Les gens veulent le changement, mais quel changement? Est-ce qu'il n'y a pas une crainte de voir une certaine dérive d'un extrême à l'autre?
Oui, effectivement, sur les 11 candidats, quand on fait le total, on s'aperçoit qu'il n'y a pas beaucoup de monde au centre, et plutôt des gens sur les bords.
Pascal, j'ai une question. Est-ce que vous ne considéreriez pas que Emmanuel Macron se situe plutôt au centre, justement?
Oui, justement, c'est la tentative, c'est la nouveauté. D'accord. Peut-être de... du paysage politique actuel.
Mais pourtant, Emmanuel Macron, qui a dernièrement, dans le dernier sondage, eu 23% d'intention de vote au premier tour, se situe au même niveau que Marine Le Pen à 23%. Est-ce que vous ne penseriez pas qu'il y a un mouvement vers le centre de la gauche et un mouvement vers l'extrême droite de la droite, comme vous le disiez? Le mouvement Les Républicains est aujourd'hui mal en point vis-à-vis de la situation de la mise en examen de M. Fillon.
C'est le pari que les Républicains ont fait quand ils se sont rebaptisés de l'UMP à être Les Républicains. Ils voulaient représenter la droite forte, la droite décomplexée. Mmh. Et donc on voit bien là où nous en sommes, sans même avoir le résultat des élections, que ce n'est pas une stratégie gagnante. Ils ont essayé de grignoter un petit peu sur les terres du Front National et ça n'a pas l'air de bien marcher pour eux, hein.
Quels sont les grands écarts, si on peut parler ainsi, dans les programmes, je dirais, de tous les candidats, mais surtout des favoris en ce moment dans les sondages?
C'est une vision de l'ouverture vers le monde. On peut prendre le thème de l'Europe, c'est peut-être le meilleur marqueur de cette volonté de se connecter, de rester ouvert sur le monde. On a deux visions de la société. Donc, est-ce qu'on veut une société ouverte, une société fermée? Est-ce qu'on veut la mobilité des personnes dans les espaces, la possibilité de faire du commerce sans avoir des tarifs et des taxes douanières? Ou est-ce qu'on veut au contraire être renfermé tout seul dans son coin?
Justement, Marine Le Pen veut faire un référendum sur un Frexit. Pour imiter le Brexit?
Le Frexit.
Est-ce que ça fait peur aux Français, d'après vous, que les gens vont voter justement en faveur d'une sortie de l'Union européenne?
C'est difficile à juger. Déjà, il y avait eu un référendum qui n'avait pas été très concluant il y a quelques années, sur la place de la France en Europe. Et donc, il y a toujours un petit peu les mêmes douleurs qui continuent. Et il faut voir si la France veut rester une des forces mobilisatrices, comme elle était à la fondation de l'Union européenne.
Mais alors, est-ce que le moral est bon chez vos collègues? Je sais qu'il y a plusieurs concitoyens, compatriotes qui sont d'origine française, qui enseignent à l'Université de Toronto, des étudiants aussi. Est-ce que le moral il tient bon ces temps-ci?
Tout le monde est quand même un petit peu inquiet. Mmh. Je ne vous le cacherai pas de voir le succès des intentions de vote pour Marine Le Pen. C'est quand même un petit peu étonnant de voir un tel engouement pour ce parti. Ce n'est pas un nouveau parti, ils sont là depuis longtemps, et malgré toutes les condamnations, malgré toutes les mises en les prises de conscience, il y a toujours quand même apparemment presque un quart de la population française qui serait prête à voter pour le Front National.
Et Pascal, pourquoi est-ce que vous pensez que les Français votent pour Marine Le Pen?
C'est une bonne question. Il y a certainement un fort taux de chômage, une forte insécurité sociale, économique en France, et elle exploite ça vraiment comme chef d'orchestre. Hein. Donc ça peut avoir peut-être un rôle à jouer, ce sentiment de chômage élevé, d'insécurité économique.
Et pour terminer, Pascal, parce que nous avons plusieurs personnes à travers le monde, à travers la planète, hein, grâce à nos amis les Enfants Terribles. Vous les connaissez, les Enfants Terribles? Oui.
Quelques-uns, oui. Ils sont pas si terribles que ça, d'ailleurs. Hein.
Non, les gens, sinon.
Oui. Si vous pouviez voir dans votre boule de cristal, premier tour et deuxième tour, vos pronostics.
Pour le moment, moi, j'irai avec ce que disent les sondages. Malheureusement, on dit que les sondages, c'est jamais qu'une prévision. Ouais. Cliché au moment, à un certain moment donné, mais je pense qu'à cette étape, les écarts sont déjà bien établis depuis plusieurs semaines. Je vois mal les choses changer.
Et il y avait quand même une surprise hein, lors de ces débats, ce dernier débat. Monsieur Philippe Poutou, personne ne le connaissait à l'extérieur de la France. Et là,
c'est une rockstar.
Tous les journaux internationaux parlent de monsieur Philippe Poutou aujourd'hui. Il est devenu une star, justement.
Poutou et Mélenchon.
Ouais.
La salle, n'oubliez pas la salle.
La salle aussi.
Écoutez, merci infiniment de nous prêter votre voix en ce dimanche. Et j'espère que nous allons suivre de très près c'est le résultat du deuxième tour prévu pour le 17 mai prochain. Et nous, on se voit très prochainement avant mon départ.
Hein. On n'y manquera pas.
Oui, passez une bonne journée. Merci
bon
beaucoup.
Bon dimanche à tout le monde.
Au revoir.
Au revoir.
Alors, mes chers amis, réaction.
Je trouve qu'il avait tout à fait raison en parlant du Parti socialiste qui est en train de mourir. Hamon se situe avec 8,5% des intentions de vote et ça se voit que finalement Mélenchon récupère des voix à gauche et c'est la fin du Parti socialiste.
Oui. Alors, mesdames, messieurs, on revient avec nos invités en studio mais aussi à l'étranger. Je pense que cette fois-ci, nous allons passer à une autre professeure qui est sur le campus de l'Université de Toronto à Mississauga. Caroline Lebrec, qui est aussi partenaire à cette émission. Ne partez pas.
Quelle impudence scandaleuse! Il faut qu'il y en ait qui portent haut et fort cette parole. Regardez, Français, pendant que vous souffrez, pendant que vous vous acharnez au travail, regardez. Alors que vous avez fait un geste si puissant dans la direction de ce dont on vous avait dit que votre avenir était dans leurs mains, eux ont saisi ce que vous avez donné pour le mettre dans leur poche. C'est une honte.
Mélenchon.
Le peuple
va parler.
Eh oui, le peuple va parler peut-être au premier tour. On verra bien Mélenchon. Et aujourd'hui à l'émission, je vous rappelle, vous écoutez une émission spéciale justement sur les présidentielles françaises vues par les Torontois, les francophones, les étudiants de l'Université de Toronto, mais aussi des amis francophones français à travers le monde. Et nous remercions ce partenariat avec les Enfants Terribles, nouveau groupe d'un journal francophone sur le campus de l'Université de Toronto et de Radio France Internationale. J'ai en ma compagnie, en direct, mes chers amis, professeur Caroline Lebrec. Bonjour Caroline.
Bonjour Eric, bonjour tout le monde.
Oui, vous êtes nombreux là autour de la table. Hein? Alors c'est dommage que vous soyez loin, professeur. Et on vous a introduit avec une petite chanson de Mélenchon parce que je pense que vous avez un petit faible pour son programme, n'est-ce pas?
Oui, tout à fait. J'ai bien entendu la chanson. J'en étais très, très contente. Et d'ailleurs, c'est une bonne chanson.
Oui, et alors, vous annoncez votre couleur. Vous avez suivi le dernier débat?
Oui. J'ai suivi le dernier débat. Moi, il y a une chose qui m'inquiète le plus dans cette élection, c'est comment on arrive à présenter 11 candidats, un tel nombre, hein, c'est-à-dire. Et donc, évidemment, je me dis qu'il y a des stratégies derrière, et ce sont des stratégies qui vont pas forcément se retourner toujours vers les personnes qui pourraient les mettre en place. Donc,
alors, avant de passer la parole à tous nos amis jeunes étudiants autour de la table, j'aimerais rappeler aux gens que selon une étude, Jean-Luc Mélenchon, le candidat de la France insoumise, séduit les moins de 25 ans, alors que les 25-34 ans font plus confiance à Marine Le Pen. Emmanuel Macron se distingue aussi sur toutes les tranches d'âge. Donc, on voit qu'il y a une jeunesse. D'ailleurs, certains prétendent que Mélenchon reflète un petit peu la dynamique de M. Sanders. Vous savez, Bernie Sanders aux États-Unis?
Oui, bien sûr. Bernie Sanders, que son parti n'a pas élu pour le représenter aux élections américaines. Et c'est fortement dommage parce qu'il aurait certainement mobilisé beaucoup plus de votes que ce qui a eu lieu.
Oui. Alors, je vais laisser la parole aux jeunes. Ils vont vous poser des questions. D'après vous, est-ce que les jeunes en ont un peu marre des autres discours des autres politiciens et ils se sentent plus proches des politiques de Mélenchon, d'après vous, chers amis?
Je vais prendre la parole. Après, je vous laisserai donner votre avis. Alors, Mélenchon, pour moi, ce que j'aime beaucoup, alors on parlait du débat, c'est par rapport au débat, par exemple, c'est sa conclusion. Que je pense que vous avez apprécié aussi, Caroline, à la fin. C'était une conclusion romantique et je pense que finalement, les jeunes, c'est ça qui les intéresse. C'est une politique qui les emporte en termes de sentiments, de romantisme. Et je pense que Mélenchon incarne vraiment cette partie-là, cette fibre de la politique. Et c'est peut-être pour ça qu'il est aussi populaire auprès des jeunes.
Oui, c'est vrai, parce que l'image est tout aussi importante que le programme politique du candidat. Et puis Mélenchon, c'est vrai qu'il a réussi à séduire les jeunes quelque part, parce qu'il arrive à avoir les deux. Il a une bonne image auprès des jeunes. Bien évidemment, c'est un ressenti très général.
Il me semble aussi que sa vie est comme un livre ouvert. Hein. Mm-hmm, il ne cache absolument de rien. Oui. Puis il a joué beaucoup sur les réseaux sociaux.
Oui, beaucoup de transparence.
Communication. Et pour les jeunes, d'après les sondages, on dit que lui, il va réduire. C'est le candidat, le seul, l'unique candidat français qui va, entre guillemets, réduire les inégalités.
Mm-hmm. Oui.
Ce que disait Bernie Sanders, d'ailleurs.
Oui, d'ailleurs, mais en plus, ça c'est sur une note personnelle, mais Mélenchon va refaire un meeting en hologramme dans 7 villes différentes.
Ouais.
Et ça, je trouve ça extraordinaire.
Peut-être un jour, l'émission sera en hologramme.
Peut-être aussi, oui. Je ne sais pas.
Oui.
Moi, je trouve que Mélenchon, j'avais jamais considéré Mélenchon dans mes opinions politiques avant. Et je trouve que sa phrase de conclusion était très inspirante parce qu'elle est positive et elle renvoie un message de positivité. Alors qu'avant, tout ce qu'on nous apprend, c'est qu'on a un futur qui est très négatif, que ça va être dur d'avoir du boulot et tout ça. Et je trouve qu'il il nous inspire énormément dans son... dans sa conclusion.
Mais ça, c'est parce qu'il insiste sur l'environnement, justement. Et je pense que son idée de rediriger les investissements français vers la mer et les parcs éoliens sur l'océan, c'est très important parce que c'est l'avenir.
Caroline, est-ce que vous êtes d'accord avec les réactions des jeunes?
Oui, tout à fait. Je pense que la force de Mélenchon, c'est qu'il a su, il sait mobiliser. Il croit en l'innovation du côté des jeunes, ce qui, on doit le dire quand même en France, c'est assez rare. Et surtout, il arrive à... alors, attendez, j'ai perdu mon fil.
Alors, avant de
retrouver...
Oui, pas de problème. Alors, je vous rappelle que Mélenchon est suivi par... 32% chez les jeunes, suivi par Marine Le Pen à 19%, puis Emmanuel Macron à 18%. Emmanuel Macron assoit son rôle de leader. On le voit parce que les tranches d'âge sont de plus en plus homogènes. Et Benoît Hamon Ça, c'est vraiment la grande surprise. Hein. Benoît Hamon et François Fillon sont, eux, très, très à la traîne chez les jeunes, surtout de 18 à 24 ans. Alors, on sent qu'il y a vraiment un engouement pour Mélenchon, en fait, chez les jeunes. Mais on verra bien si ça va perdurer pour le deuxième tour.
Alors, j'ai une question pour vous, Caroline. Est-ce que vous seriez prête à payer plus d'impôts en habitant à Toronto? Parce que finalement, c'est ce que propose Mélenchon avec son impôt universel.
Ben Mélenchon, sa force, c'est qu'il arrive à renouveler ce qui existe déjà. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui fait peur parce qu'il prône le tabula rasa. C'est quelqu'un qui arrive à trouver des ressources dans ce qui existe, mais qui n'est pas exploité de manière efficace, on va dire. Par exemple, les profits des entreprises, de certaines entreprises qui vont vers les actionnaires, pourquoi pas les réutiliser ces profits-là pour l'investissement dans le milieu économique, justement, notamment au niveau des employés. On sait qu'en France, le taux de chômage est un grand souci, est un grand problème. Alors, je sais que on va tout de suite vers des conclusions telles que est-ce que vous êtes prêt à payer plus d'impôts ou des choses comme ça. Oui, tout à fait. L'important, c'est d'arriver à faire des efforts pour réutiliser les ressources qui sont en place. Si on continue de faire augmenter les impôts, par exemple, tous les 5 ans, tous les 7 ans, des nouvelles mesures, les gens s'en lassent. Et ça va vers des partis qui montent dans les sondages et on préférerait qu'ils n'existent pas.
J'ai l'impression que finalement, parce que nous devons passer à Pékin dans un instant, j'ai l'impression que les gens, surtout les jeunes, en ont un peu marre. Ils veulent un grand nettoyage dans le secteur public, mais aussi chez les politiciens. C'est pas votre avis?
Oui, si. Effectivement, mais peut-être que c'est pour ça aussi que Le Pen...
L'affaire Fillon, ça a vraiment secoué tout le système politique.
C'est pour ça que Marine Le Pen est populaire.
Exactement, c'est parce que les Français veulent un changement. Ils veulent plus les techniques qui n'ont pas marché avant. Les méthodes du passé sont plus d'actualité pour les Français aujourd'hui. Et ils veulent complètement changer le programme. Alors, ils veulent un nouveau visage.
Ouais. Alors certains, visage. Caroline, prétendent que Macron incarne un peu Justin Trudeau. À la française.
C'est juste ça, c'est vrai.
Ouais.
Oui, bon, oui, peut-être. C'est-à-dire que on peut trouver des liens entre tout le monde.
Ouais.
Si on va dans ce qui est dans le réel, Mélenchon, il est arrivé à créer un programme et renouveler des idées pour toucher des gens qui se désintéressaient de la politique depuis longtemps. Et donc, le fait d'arriver à mobiliser ces gens-là, parce que les gens qui votent, c'est une chose, mais c'est surtout tous les gens qui ne votent pas. Mmh. Il y a le droit du vote et tous les gens qui ne votent pas, pour différentes raisons, ce sont des votes perdus. Et donc, il nous faut des candidats tels que peut-être Bernie Sanders aurait fait, mais en tout cas en France, certainement Mélenchon, ça va être une de ses forces.
Alors, très bien. Nous allons aussi nous intéresser sur les Français qui vivent aux États-Unis, qui vivent en Afrique, qui vivent au Japon, en Chine, et tout ça dans la prochaine demi-heure. Merci infiniment, Caroline Lebrecq, d'être des nôtres aujourd'hui. Et suivez le débat avec nos jeunes des enfants terribles.
Merci Eric. Est-ce que je peux juste ajouter quelque
chose? Oui, rapidement.
Ok, oui, il y a une réunion de la France Insoumise samedi prochain, le 15 avril, de 13h à 15h, au BAMPOT, B-A-M-P-O-T, c'est au 201 Harbour Street.
C'est noté, Caroline.
Très bien. Alors, merci. On l'annoncera avant la fin de l'émission. Passez une bonne journée et merci encore. On se voit bientôt. Hein.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir, merci. Right here, right now, every day. CIUT 89.5, Toronto. Sound of your city.
Vous écoutez Potpourri Show sur CUT 89,5 FM. Une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Potpourri Show, 30 ans déjà. Toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm ou www.popourichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM.
Et oui, mesdames, messieurs, de retour à Toronto, dans les studios de Heart House. Et aujourd'hui, j'ai le bonheur d'accueillir pour la première fois tous ces jeunes de l'Université de Toronto. Ce sont des Français, ce sont des Européens qui sont passionnés par la politique, par la culture. Et nous sommes très heureux de les avoir grâce au groupe Les Enfants Terribles, le nouveau journal francophone sur le campus de l'Université de Toronto et Radio France Internationale. Merci beaucoup. Alors, Les Enfants Terribles, quand on regarde un peu votre page Facebook, d'après les observateurs de notre émission, ils trouvent que c'est très, très français avec le drapeau tricolore. Et où vous situez-vous? Est-ce que vous êtes français-français? Vous êtes ouvert pour tous les francophones sur le campus?
Alors, on est ouvert pour... pardon.
Oui, allez-y.
On est ouvert à n'importe qui peut, oui, peut se rejoindre à notre équipe. On, oui, est plutôt une famille. On a envie de... nous partageons des valeurs. Nous parlons le français. Et puis, habitant à l'étranger, on pense que c'est important d'avoir un projet en commun où nous pouvons s'exprimer. Comme nous disions tout à l'heure, beaucoup de jeunes ne sont peut-être pas assez investis dans la culture française dont nous n'avons pas forcément accès... à l'étranger, donc c'est important de se réunir ensemble.
Mmh. Le drapeau donc, français n'est pas exclusif.
Hein. Ouais. Oui, absolument, absolument. Oui, oui.
Très bien. Alors, donc,
c'est symbolique.
Votre site web, encore une fois, l'adresse pour les gens qui nous écoutent, qui veulent aller vous vérifier.
Donc c'est enfantsterrible.co.
Très bien. Voilà. Alors Franck, qui vit aux États-Unis, dit « Pourquoi s'intéresser à la présidentielle ? Eh bien, l'état de la politique en France me désole. Malgré ça, je continue de voter. La France, c'est quand même mon pays d'origine, le pays dans lequel j'ai grandi. » Franck a également regardé le débat depuis les États-Unis, le grand débat de mardi dernier, et après avoir suivi la présidentielle américaine, il note une différence dans les rapports entre les candidats français et américains. Il dit, je cite, « Heureusement, le niveau intellectuel du début est bien au-dessus de la stupidité de ce que nous avons pu voir lors des élections primaires américaines avec des candidats comme Donald Trump, qui parle de la taille de son sexe ou de la surenchère pro-chrétienne à laquelle nous avons assisté. Au moins, malgré les différences de point de vue, les candidats français se respectent. »
Oui, bah effectivement, en habitant à New York personnellement, c'est vrai que c'était une élection qui, par rapport à l'élection française... On peut, il y a des similitudes, mais les candidats sont très, très différents. Mmh. Effectivement, en écoutant le débat des élections françaises, on peut voir que les candidats ne perdent absolument pas de temps en termes de parler de leur programme et parler exactement de ce qu'ils vont faire dans le futur plutôt que de choses personnelles.
Des hypocrites ! Ils défendent les droits de l'homme, mais quand M. Sarkozy a été rencontré le roi, là-bas, le roi d'Arabie Saoudite au Maroc, il lui a dit, dites monsieur les droits de l'homme, vous allez arrêter de fouetter à mort ce type qui a écrit un blog qui ne vous plaisait pas, et quand monsieur...
Et oui, monsieur Mélenchon, hein, qui continue à chanter. Alors, mon cher ami Koya, vous allez nous présenter le prochain invité qui nous attend en direct de Pékin.
Alors, Élie Lafont, c'est un ami du lycée. Il est en ce moment en train d'étudier à Sciences Po Le Havre, avec une spécialisation en chinois. Et il est en ce moment à l'université de Pékin.
Et, ouais.
Et du coup, on l'a en ligne de Pékin.
Eh oui, il est debout. Il est quelle heure là, chez vous?
Alors, il est 1h du matin, je pense, chez lui. Et il devrait être en train de dormir ou de réviser.
Élie Lafont, bonjour.
Oui, bonsoir.
Justement, ça commence bien. Alors, et merci beaucoup d'être des nôtres aujourd'hui. Vous nous suivez un peu sur Internet, peut-être?
Rapidement, parce que Koya m'a parlé de ce qu'il faisait au Canada. Donc,
Oui. Alors, vous êtes à Pékin. Nous avons eu le président chinois
aux États-Unis cette semaine. Peut-être les journaux en ont parlé, mais est-ce que vous suivez de l'étranger les élections présidentielles françaises? Est-ce que cela vous interpelle?
Alors, ouais, je suis assez fréquemment, en fait. Je suis assez content de ne pas être en France, à vrai dire, parce que le climat a l'air assez tendu en ce moment. Et j'ai l'impression que j'ai eu depuis la Chine, c'est qu'il y a eu assez peu de débats sur le fond. Et on a quand même parlé beaucoup d'affaires qui ne sont pas vraiment des affaires politiques.
Alors, c'est quoi les affaires de fond pour toi, Ali?
Alors, quelles sont les affaires de fond? Alors, je pense que tout d'abord, un des sujets importants qui est revenu dans la campagne, c'est l'Europe. Et moi, c'est un des sujets auquel je tiens particulièrement. Je trouve qu'il y a un vrai clivage qui se dessine sur ce sujet. Et je pense que c'est vraiment le point le plus important de la campagne.
D'accord. Et est-ce que tu penses qu'il y a une instrumentalisation de l'Europe? Parce que tout le monde parle de l'Europe et finalement ça devient quelque peu superficiel. Et tu penses que l'Europe est utilisée pour faire peur ou c'est instrumentalisé pour donner de l'espoir? Comment les politiciens utilisent l'Europe aujourd'hui en France?
Alors j'ai l'impression que l'Europe aujourd'hui sert plus de repoussoir. Que ce soit par des candidats d'extrême droite ou de gauche et je trouve qu'il y a assez peu de candidats qui essaient d'avoir une vision assez positive de l'Europe. Soit on est clairement dans le rejet total, ou alors on est au mieux on est un peu dans un soutien un peu mou à l'Europe, en disant qu'il faut changer par-ci par-là. Moi, à titre personnel, je trouve que la seule personne qui a une vraie ambition vis-à-vis de l'Europe et qui ne souhaite pas dans le populisme facile en mettant sur le dos de l'Europe un certain nombre de problèmes qui sont probablement plus compliqués à saisir, je trouve que c'est Benoît Hamon, mais malheureusement ça n'a pas l'air d'aller fort dans les sondages récemment.
Qu'est-ce qui ne décolle pas justement chez Benoît Hamon? Parce que tout le monde est un peu surpris, et on est pris de court avec sa performance dans les débats mais aussi dans les sondages.
J'ai l'impression qu'il a un peu toutes les tares qui lui sont reprochées. C'est-à-dire que déjà, il n'arrive pas à se défaire de l'héritage de François Hollande, alors qu'il s'est quand même présenté en marquant une coupure nette au sein du Parti socialiste. Et en même temps, j'ai l'impression que certains candidats peuvent paraître plus sérieux aux yeux des Français, parce que c'est vrai qu'il a il a un programme, on va dire, où il est plus enclin à la dépense à court terme. Et c'est un programme qui est probablement plus ambitieux que celui de certains autres candidats et qui donc forcément doit être plus clivant. Mais...
D'accord. Donc du coup, si dans le cas où tu voterais pour Benoît Hamon, qu'est-ce que tu penses de l'idée du vote utile? Parce que finalement, aujourd'hui, Hamon a appelé à voter pour Mélenchon s'il passait le premier tour. Est-ce que c'est toujours conseillé de voter Benoît Hamon en ce moment? Ne vaudrait-il mieux pas voter pour Mélenchon pour qu'il passe le premier tour et que la gauche se retrouve au deuxième tour?
Oh, j'aime ça. Alors, les gens qui sont stratégiques comme ça.
Ah, c'est la politique.
Mais c'est une question que je me pose en fait en ce moment. J'en ai discuté avec pas mal de gens qui sont un peu dans la même situation que moi. C'est vrai que voter Benoît Hamon, c'est pas peut-être pas le choix le plus stratégique actuellement. Et c'est vrai que dans l'éventualité d'un second tour entre François Fillon et Marine Le Pen, c'est quand même une catastrophe à mes yeux. J'hésite encore, et c'est vrai que l'idée d'un vote utile, que ce soit Macron ou Mélenchon, ça peut avoir du sens.
Peut-être que cette hésitation décolle justement du fait que nous devons parler des modèles de la société qui sont importants, plutôt que toujours tourner autour du pot et parler de qui va voter pour... Qui soutient qui sous la table. Non, il faut mettre tout sur la table justement. Il y a des faits qui sont très importants. Les agriculteurs souffrent en France en ce moment. Il y a l'éducation, l'écologie, la sécurité qui devient des sujets qui doivent vraiment décoller. Il faut qu'on en parle et parler d'accord, quelle place dans le monde pour la France, c'est une question importante, mais il faut aussi savoir protéger la France dans le sens où on se soutient, on partage nos valeurs, on parle de ce qu'on pense et de qui on soutient. Et puis, d'accord, on peut faire des prédictions, mais ce qui est important, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on sait et qu'est-ce qu'on va en faire.
Question très intéressante, parce que moi, j'ai beaucoup d'amis qui étaient dans le Parti socialiste dans le passé, et je dirais que la majorité des socialistes, c'est eux qui votent Marine Le Pen aujourd'hui. Comment expliquer ça ?
Ah bah c'est effectivement très intéressant.
Élie, est-ce que tu as une réponse à ça ?
Je ne sais pas exactement, mais je pense que la gauche a déserté quand même, la gauche traditionnelle, a déserté certains champs de bataille, et qui sont des sujets qui peuvent parler à la classe ouvrière ou à toutes ces régions qui ont pris de plein fouet la désindustrialisation. Et ces gens-là qui sont plus représentés à gauche, peut-être ils peuvent voir l'extrême droite comme un recours dans un moment comme celui qu'on traverse en ce moment.
Oui. Alors pour terminer, parce que nous avons un autre invité, une dernière invitée, est-ce que les journaux en Chine sont intéressés par ce qui se passe en France ? Est-ce qu'il y a des articles ? Ouais.
Pour être honnête, les journaux parlent plutôt de la France. En ce moment, les gens parlent plutôt de Donald Trump, en fait, et de la relation avec les États-Unis, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont en train de changer, et je dois dire que la France, c'est pas une priorité pour les Chinois.
Oui, il faut dire que depuis hier soir, il y a des bouleversements géopolitiques avec l'Amérique qui tente peut-être de montrer ses griffes à la Corée du Nord. Il y a des craintes, là, en ce moment, dans votre région, n'est-ce pas ?
C'est de ça dont on parle.
Mais, oui.
Un climat presque de deuxième guerre froide.
Oui. Parce qu'il faut dire qu'il y a beaucoup de Chinois qui aiment visiter la France. Hein. Il y en a même qui deviennent des gens d'affaires, qui achètent des immeubles ou des terrains.
Oui, mais c'est pas au même degré que l'investissement chinois en Afrique.
Oui, ok. Très bien. Alors, écoutez, merci beaucoup d'être des nôtres. Là, vous allez vous reposer. Faites de beaux rêves.
Bonne nuit.
Un dernier message à vos collègues, vos amis qui sont à Toronto.
Je leur souhaite. J'espère que l'issue de l'élection présidentielle sera positive pour tout le monde et pour tous les Français à l'étranger en général.
Très bien.
Merci.
Merci beaucoup, Élie.
Voilà, madame, monsieur, dans un instant, nous passons à un autre invité. Je vous rappelle que vous écoutez une émission spéciale. En direct à la Radio Campus de l'Université de Toronto, en collaboration avec Les Enfants Terribles, le nouveau journal francophone sur le campus francophone de Toronto. Allez les voir et puis peut-être un jour, nous organiserons une activité pour les rencontrer en personne. Pourquoi pas ? Vous aimeriez ça, rencontrer nos auditeurs, hein. Je pense que Koya a eu du plaisir lors de notre cocktail, n'est-ce pas?
C'était bien de voir.
Et si vous nous appelez, madame, monsieur, ou nous envoyez un message, j'ai pas vérifié encore notre page Facebook, voilà ce que vous courez la chance de risquer de gagner les jolis t-shirts de notre 30e anniversaire. Alors voilà, c'est à vous. Si vous nous appelez au 416-946-7000 ou encore pot.courrier@simpatico.ca. Et oui, moi je vais continuer avec les réactions des Français qui sont un peu à travers le monde. Pour la première fois, ce débat réunissait, je vous rappelle, les 11 candidats. Vous avez tous regardé le débat.
En effet.
Monsieur Poutou, oui. Sans sas.
Ouais. Extraordinaire.
Alors, très simple, pas de cravate, pas de costume. D'ailleurs, il a mis au pas l'animatrice de l'émission, du débat, en disant « Oui, vous me posez toutes ces questions parce que je ne porte pas de costume. » Alors, donc, de Mexique, Lily, expatriée au Mexique avec sa famille, on a regardé les moments forts au lendemain de sa diffusion à cause du décalage horaire. Et oui, et elle dit une soirée qui n'a pas été révolutionnaire, selon Lily. Il n'y avait rien de très original ou de surprenant dans les propositions. Pourtant, une intervention l'a interpellée, celle de Philippe Poutou. Nouveau parti anticapitaliste m'a enchanté. Mexique. Alors, je pense que nous avons le dernier invité que vous allez nous présenter, mon cher Koya, c'est Samuel Ferrer.
Samuel Ferrer, qui est aussi rédacteur au journal francophone Le Daily, un journal francophone à McGill. Et j'espère qu'il aura de bonnes choses à nous dire.
Alors, bonjour Samuel.
Bonjour.
Oui, alors, quelle heure est-il chez vous ?
Il est la même heure que vous, à mon avis.
Oui, en effet. Donc, de Pékin, France, Mexique, Montréal. Alors, ça va, Montréal ? Il n'y a pas trop de neige ?
Non, ça va. Écoutez, il fait assez beau aujourd'hui, donc c'est plutôt plaisant.
Oui. Alors, vous êtes français ?
Oui.
Oui. Alors, cela vous intéresse ? Vous êtes passionné par la politique, surtout les élections présidentielles actuelles ?
Je suis tellement passionné que je l'étudie. Donc, oui. Ouais. C'est très important pour la politique.
Vous avez regardé le dernier débat ?
J'ai pas eu l'occasion de le voir en direct. J'ai vu des extraits.
Bah, Samuel.
Mais en même temps, c'était que 15 minutes par candidat. Donc, est-ce que c'est un vrai débat ? Même.
Tu as quand même manqué l'envolée lyrique de Philippe Poutou.
Ah, celle-là, j'ai pu la voir, celle où il dénonce.
Ah, d'accord, très bien.
Oui. Pour les gens qui n'ont pas regardé le débat, ce duel entre Marine Le Pen et Philippe Poutou, explique-nous un peu ce qui s'est passé.
Alors,
on est bien d'accord qu'on parle de la question des emplois fictifs et de l'immunité parlementaire.
Voilà.
Et je trouve que la remarque de M. Poutou était très, j'allais dire on point, il faut essayer d'éviter les anglicismes, était très bien trouvé, parce qu'en effet, pour un candidat qui se dit anti-système et qui pourtant profite activement des bénéfices juridiques que le système peut donner, c'est un peu étrange.
C'est vrai. Et j'ai beaucoup aimé dans l'attitude de Poutou, justement, le fait qu'il soit tout le temps assis sur son pupitre et qu'il ne se lève que lorsqu'on lui donne la parole, prêt à mener son cheval blanc et à mener la guerre contre la droite française, en fait.
Et il n'a pas voulu prendre de photos avec le reste du groupe, hein.
Ah bon? Ah, vous ne savez pas ça?
Oui.
Ah, mais Monsieur Poutou.
Il s'est démarqué. Question?
Je trouve que Poutou était intéressant parce qu'il était... Il était vraiment différent du reste des candidats. Samuel, est-ce que tu connaissais Poutou avant ces élections? Parce que pour moi, c'était vraiment une grande découverte de le voir au débat.
Ouais, je connaissais notamment grâce à l'émission On n'est pas couché.
Ouais.
Vous avez regardé son intervention.
Hier soir, d'ailleurs, il était en reprise On n'est pas couché sur TV5. Il était à l'émission hier soir.
Et si je pouvais te demander aussi, comment est-ce que je trouvais que Nathalie Arthaud et Poutou étaient quand même très rapprochés dans leurs idées, et comment est-ce que tu trouves que leurs idées sont trop idéalistes ou je trouvais que son discours était très révolutionnaire, donc j'essaie de voir comprendre si c'était quelque chose qui était possible aujourd'hui en 2017.
Je pense que juger une idée trop idéaliste dès le début, c'est dangereux pour une démocratie, parce qu'on a besoin d'idéalisme pour trouver des nouvelles alternatives et des nouveaux moyens de se réinventer en tant que société. Après, une fois qu'on laisse ces idées mûrir et se développer, il faut voir qu'en effet, si elles sont réalisables. Mais je pense que l'idée de base est laisser une idée se développer, et c'est très important. Et c'est pour ça que c'est important qu'on puisse avoir aussi des débats, même si c'est que 15 minutes par candidat, d'avoir des débats où il y a tous les candidats et tout le spectre politique qui est représenté.
Alors, est-ce que vous voyez dans votre boule de cristal en direct de Montréal les favoris du premier tour et deuxième tour?
À Montréal, j'ai l'impression qu'il y a un engouement pour deux candidats en particulier, notamment, Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui sont en tout cas les deux groupes de soutien les plus actifs. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de jeunes qui... C'est facile de s'identifier entre ces deux candidats parce qu'ils sont... Quand on est moins politisé, pour Emmanuel Macron, c'est très intéressant parce qu'il propose des mesures pas trop révolutionnaires mais qui sont tout de même, en apparence en tout cas, c'est mon avis, nouvelles. Et quant à Jean-Luc Mélenchon, lui aussi, pour le coup, est révolutionnaire, mais c'est un tribun, c'est un orateur hors pair. Et donc, je pense que même si on ne va pas forcément chercher plus loin que ses idées, le simple fait de l'écouter, ça peut être assez convaincant.
Alors, il y a beaucoup de gens qui trouvent que Macron ne dit pas tout, ne dit pas la vérité, parce qu'il était dans le gouvernement de M. François Hollande, du président Hollande, et quand il était là, il n'a pas fait grand-chose pour beaucoup de Français. Et comment se démarquer de la politique de Hollande? Est-ce que c'est pas blanc-bonnet, bonnet-blanc?
Je connais pas cette expression de blanc bonnet bonnet blanc, mais en tout cas.
Bah alors.
Quant à...
C'est une expression française.
C'est
parisien. Je suis très parisien.
Mais en tout cas, quant aux accusations, si on peut dire ça comme ça, le fait qu'il n'ait pas fait grand chose au gouvernement, c'est en quelque sorte c'est faux, parce qu'il a en effet fait une politique plutôt libérale, notamment avec le CICE. Et d'ailleurs, lui-même, j'ai l'impression, dans une entrevue que j'ai regardée l'autre jour, semblait être un peu revenir dessus. Et donc, il a fait déjà des politiques et qui sont vraiment un avant-goût de ce qu'il veut continuer à faire. Donc, je ne sais pas s'il peut vraiment se démarquer totalement ou se détacher de la politique Hollande, parce que quand on analyse un peu ses propos, c'est, ce qu'il veut faire, c'est continuer sa politique et peut-être la renforcer.
Oui,
après, de là à mentir, je pense que c'est pas vraiment mentir, c'est juste embellir les choses de manière politique. C'est vraiment du mensonge.
Et alors, écoutez, nous allons suivre ça de très près. S'il le faut, on vous appellera avant le deuxième tour. Je serai de retour. Je vais justement aller en France pour aller voir de plus près le programme des candidats dès la semaine prochaine. Alors, merci beaucoup, Samuel. On sent bien qu'il est très intéressé.
Samuel, je suis content d'avoir avec moi.
Samuel, peut-être un jour vous serez candidat, qui sait. Allez, passez un bon dimanche et merci beaucoup d'avoir été là.
Merci, Samuel.
Au revoir à tous, merci beaucoup.
Au revoir. Merci. Alors voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Il y a un autre monsieur qui est à Dakar, au Sénégal. Et il est entrepreneur et il dit qu'il a créé son propre entreprise de distribution alimentaire et ça marche très bien au Sénégal, qui ne compte pas rentrer en France. Il dit, je cite, « Franchement, je n'ai pas vu le temps passer alors que je m'endormais un peu lors du précédent débat